Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cinquième numéro de la deuxième saison de Culture Sang et Or. Vous en avez l'habitude maintenant. C'est l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple Sang et Or. Aujourd'hui, nous reviendrons évidemment sur ce difficile match nul de nos Lensois, 2-2 hier face à Lorient au Stade Bollaert. Alors peut-être qu'on évoquera aussi sur les 2 minutes 30 d'échauffement du match du LOSC. Merci le troll de Prime Vidéo. Si vous étiez sur le match hier, vous avez vu qu'on a eu une petite coupure. Bon, en tout cas, pour en parler, ils sont 4 avec moi ce soir. Et il est d'abord la voix du RC Lens sur la première radio de France. C'est Samuel Duhamel de RTL. Bonsoir Samuel.
Salut Valentin. Je précise simplement que RTL n'est plus la première radio de France, c'est France Inter désormais. Mais ça fait quand même plaisir Valentin.
Ah oui, on profite quand même encore un petit peu Samuel. Il est opérationnel autant sur le plan technique que tactique. C'est Amaury Demonchaud qui est avec nous. Bonsoir Amaury.
Salut Valentin et bienvenue.
Merci beaucoup. Il cherche en vain pour le moment des supporters lensois en Espagne. N'hésitez pas à lui écrire si c'est votre cas. Antoine nous accompagne ce soir. Bonsoir Antoine.
Salut à tous et bienvenue à toi Valentin.
Merci. Et enfin, il est probablement l'un des rares qui aurait pu nous déquitter le célèbre 4-6-0 de Laszlo Bonnulli face à Nancy en 2011, comme il le fait d'ailleurs régulièrement sur son compte Twitter, @fetacompo. Il a d'ailleurs créé une agence de conseil et optimisation de la performance pour acteurs du foot intitulée Tacompo. Benjamin Charrier est notre invité ce soir. Bonsoir Benjamin.
Salut et merci beaucoup pour l'invitation.
Benjamin, on parlera plus en détail avec toi en deuxième partie d'émission. On verra comment tu peux nous décortiquer la tactique du RC Lens mise en place par Frank Hayes depuis des mois maintenant et qui rend le jeu du Racing si contagieux, selon les dires de Thierry Henry. Tout ça, ce sera après avoir débriefé le match face à Lorient, évoqué la N2, les féminines et fait un point mercato qui s'annonce chaud hein, à quelques heures de sa clôture. Et puis à la mi-temps, on aura aussi le célèbre quiz de Culture Sang et Or. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat Facebook ou encore YouTube de l'émission sur tous les sujets que nous allons aborder ce soir. D'ailleurs, on a déjà un message sur YouTube de Jules K qui nous écoute du Laos et qui fait un béco à Sam. Voilà, je sais pas si tu le connais Samuel.
Ah oui, c'est Julien Campeners. Ben, je l'embrasse aussi.
Voilà. Allez, il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur notre site web culturesangetor.com. Vous y trouverez plein d'articles sur le club. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux @culturesangetor sur Twitter, sur Instagram et puis sur notre page Facebook Culture Sang et Or. Allez, on passe au programme du soir avec d'abord le débrief du match d'hier après-midi. Un match nul compliqué face à Lorient au Stade Bollaert. Messieurs, le score, première question, petit tour de table. Le score est-il logique? Samuel, on commence avec toi.
Bah pour faire court, j'ai trouvé que c'était un match nul logique. Oui, disons que à la fin du match, je me suis dit que c'était un point mérité et que s'ils avaient gagné, pour le coup, ça aurait été immérité. Je trouvais que les Lorientais avaient gagné tactiquement de cette rencontre d'assez loin. Donc, pour moi, c'est un point logique. Ouais.
Amaury, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Bah, écoute, ouais, je suis d'accord. Le match nul est hyper mérité. J'ai même eu peur à un moment donné que ça tourne en notre défaveur. Mais contrairement à l'habitude, on a su marquer sur nos temps faibles et ça nous a sauvés sur ce match-là, je pense.
C'est vrai que Lorient a eu l'occasion du 3-1 plus d'une fois. Antoine, comment tu as senti le match, toi? Est-ce que c'est un score logique?
Un peu dans la dynamique de Sam et Amaury, c'est-à-dire que c'est un score qui est logique un peu sur la, enfin, qui est assez logique sur la globalité, mais en boxe, je pense que c'est le point lorientais qui aurait été levé par l'arbitre.
Exactement. Benjamin, toi, tu as suivi le match hier?
Ouais, j'ai suivi puis je l'ai regardé aujourd'hui.
Alors, t'en penses quoi de ce match nul?
Je pense que c'est assez bien payé pour Lens, en fait. Même si ils avaient de quoi bien bousculer Lorient, finalement, ils ont beaucoup plus offert que sur les matchs précédents et ils auraient pu être punis bien plus largement, je pense.
On est à peu près tous d'accord. D'ailleurs, on va commencer le premier débat de ce débrief. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que le Racing a perdu finalement le match du milieu de terrain hier au Stade Bollaert et que c'est ce qui a fait défaut. Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Est-ce que l'absence de Doucouré a été préjudiciable justement dans ce match du milieu de terrain? Parce qu'moi en tout cas, j'ai trouvé un manque de maîtrise au milieu de terrain et derrière, on s'est souvent retrouvé à 2-2, surtout en première mi-temps. Qu'est-ce que t'en penses, Amaury, de ce milieu de terrain hier?
Eh bien, écoute, complètement d'accord et je suis content que t'en parles parce que je voulais justement en parler. Le trio Monconduit à Bergel et Lemoine nous a vraiment fait mal et pour être honnête, je m'y attendais pas. j'arrive assez peu à l'expliquer. Cahuzac était placé en point de basse l'année dernière, il m'a vachement surpris dans sa capacité à se projeter, à être dangereux offensivement. Là, je pense que clairement c'est une consigne, hein, parce qu'il était vraiment très proche de ses trois centraux et il a très peu participé au jeu collectif. Il a souvent fait des passes latérales sans prendre beaucoup de risques. Gaël Kakuta, ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais je trouve qu'encore une fois en première mi-temps ça a été compliqué à le trouver. Et moi, ce qui me déplaît surtout, même si c'est pas nouveau, c'est qu'à la perte c'est très très long à réagir et les transitions défensives sont, je pense, insuffisantes. Et notre joueur qui faisait la différence, même s'il a encore marqué, Fofana, je l'ai trouvé un peu moins bien. Alors certes, il marque, et heureusement, mais je l'ai trouvé moins bien, beaucoup moins impactant, beaucoup moins dangereux, même si Bollard se lève quand il prend la balle et qu'il fait 30 mètres et qu'il fait la transition offensive très rapide. Beaucoup moins bien, donc je suis carrément d'accord avec toi. On en reparlera peut-être d'ailleurs sur le premier but l'orienté. Ça vient pour moi de là. En fait, on sera à contre-temps et je vais passer la parole, mais on a toujours été à contre-temps, je trouve, sur les pressings, et c'est ce qui nous a fait défaut et c'est ce qui explique cette difficulté qu'on a rencontrée dans ce match-là.
D'accord avec ça, toi aussi, Antoine?
Ouais, tout à fait. Ben, en fait, on a très vite senti, et j'ai revu le match cet après-midi, que ben, en gros, on a passé quasiment une grande partie de la première mi-temps en infériorité numérique au milieu de terrain, puisque Kakuta, ben, il n'a pas trop de tâches défensives. Ça a été un peu corrigé, mais je ne sais pas si c'est l'absence de Doucouré qui a été préjudiciable ou si c'est aussi que l'équipe a été un peu plus coupée en deux. On a senti quand même par moments qu'entre les trois derrière et les trois devant, si on inclut Kakuta, il y avait par moments une forme de no man's land.
Oui, il y avait un trou énorme, j'ai trouvé. Ouais.
Voilà, dans lesquels les Lorientais en fait, ont planté gentiment leur tranchée et puis nous ont gentiment harcelés. Donc ouais, je pense qu'on a vraiment perdu la bataille tactique, hein, comme ça a été dit précédemment. Et ça a été surtout le cas en fait, pendant deux périodes, dans les deux périodes du match.
Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as regardé deux fois le match, Benjamin ?
En fait, je pense pas que cette grande phrase de la bataille du milieu corresponde au projet de jeu lensois. Parce que, en fait, leur caractéristique, c'est d'avoir des possessions courtes, qu'elles soient offensives ou défensives. On a la balle, on est très vertical, très rapidement, on met du nombre dans la surface. Et à l'inverse, quand on la perd, on essaie de la récupérer le plus rapidement. Et du coup, là, ce qui a manqué clairement, c'est l'activité, le volume de jeu de Doucouré, qui permet de combler énormément de failles, puisque tu passes ta vie en transition quasiment, qu'elle soit offensive ou défensive. Et par son intelligence, par son placement, par son volume de jeu, il arrive à corriger tellement de choses que Cahuzac ne peut pas faire, dû à son jeu, évidemment, à son âge. Donc je pense que ça, c'est un point central, et comme ça a été évoqué précédemment, très clairement, le bloc n'était absolument pas compact. Ça, on est habitué à ce que le bloc soit très long, notamment sur remise en jeu, parce que ça leur permet en fait d'attaquer les seconds ballons avec puissance. Et sauf que là, sur du jeu au sol, il y a les interlignes, ils étaient immenses, et clairement, Cahuzac n'a pas du tout le profil. Et même Doucouré, dans cette configuration-là, à mon avis, n'aurait pas fait de miracle.
T'es d'accord avec tout ça, Samuel ?
Ben, en fait, je suis d'accord pour dire que Cheikh Doucouré n'aurait pas fait de miracle, en fait, tout simplement parce que quand on pense au match précédent à Bollard contre Saint-Etienne, en fait, les Lensois, ils étaient également en grande difficulté. Les Lensois, ils sont passés tout près du 1-3 à un moment donné. Et c'est vrai qu'il y a cette égalisation relativement tardive. Mais plus d'une fois, le bloc Lensois a été contourné par les adversaires. Je vais être un peu provocateur. Moi, j'ai envie de dire que le problème de cette équipe, c'est Fofana. Parce que en fait, on parle d'un milieu box to box, et j'ai l'impression qu'il a, de mon point de vue, qu'il a trop tendance à délaisser ses charges défensives, et donc ça retombe sur Doucouré ou ça retombe sur Cahuzac. Il y a un autre revers à ça, de mon point de vue, on en parlera avec Ben peut-être en deuxième partie de l'émission, c'est que je pense que ça a également tendance à réduire l'influence offensive de Gaël Kakuta. Pour moi, il y a quelque chose qui marche pas sur le papier. Je trouve ça super séduisant, là, donc le 6-8-10 Doucouré, Fofana, Kakuta, mais pour l'instant il y a quelque chose qui marche pas, et je dirais que les équipes comme Saint-Etienne et Lorient ont réussi à contourner cette difficulté apparente relativement facilement. Donc pour moi, c'est un axe de progression qui va être très important pour Franck Hesse dans les semaines à venir. C'est comment réussir à rééquilibrer cette équipe qui, en fait, ne joue pas en 3-4-1-2, mais en 3-1-4-2, ce qui me semble largement déséquilibré. Est-ce qu'il met toute l'équipe en difficulté assez facilement, beaucoup trop facilement de mon point de vue?
Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin? Tu crois que Franquès, faut quand même qu'il réfléchisse peut-être à modifier son système au milieu?
Non, je pense pas. Je pense que ça n'arrivera pas déjà d'une parce que c'est pas le projet. Et je suis pas certain que ce soit souhaitable. En fait, c'est une équipe qui, oui, on a l'impression qu'elle est toujours déséquilibrée, c'est vrai. Mais en fait, ce déséquilibre, c'est son équilibre parce que elle pense que en ouvrant des espaces, ses profils de joueurs vont gagner les duels. Et d'ailleurs, on le voit dès que Klaus a de l'espace, dès que Fofana a de l'espace, dès que Kakuta a de l'espace. En général, c'est eux qui vont remporter le duel, qui vont pouvoir amener du danger face à l'adversaire. Donc non, j'ai pas forcément la même lecture et je pense que c'est toujours le même adage. Tu sais ce que tu perds et tu sais pas ce que tu gagnes. Et en bridant certains profils type Fofana, tu sais que tu vas perdre en créativité et en danger dans le dernier tiers, mais t'es même pas sûr que tu vas être plus résilient sans ballon, puisque ça correspond pas à ce qui a été travaillé pendant toute la préparation et pendant toute la saison dernière.
Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de la défense maintenant? Parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup emballé sur le match de Monaco. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai quand même trouvé hier la défense bien plus fébrile, même s'il y a eu ce problème de compensation avec le milieu de terrain, etc., et que finalement on s'est retrouvé beaucoup en 2-2 avec Mofi et Lorienté qui ont bien joué les coups. Quand même encore 2 buts encaissés au Stade Bollaert. Est-ce qu'on s'est pas un petit peu trop vite emballé, ou alors est-ce que ça demande de la patience? Antoine, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, je pense que clairement, ça rejoint tout ce qu'on a déjà dit depuis maintenant plus d'un an. Je pense que la norme du RC Lens, ce n'est pas le clean sheet, clairement, parce que forcément, il y a un jeu qui est porté vers l'avant, il y a des prises de risque. Quand on joue à 3 derrière, avec un Grady et un Medina qui sont généralement les premières rampes de lancement, quand ce n'est pas en plus badé l'année dernière, et cette année, on a déjà vu Danso faire un peu des courses très rapidement vers l'avant pour percer les premières lignes de défense adverse.
J'ai pas revu d'ailleurs, mais ça a failli coûter un carton rouge, non? Parce que John qui prend là, ouais, quand il emmène
sur le moine, ouais, il était très limite. Ouais. Et du coup, bah forcément, on va constamment se remettre dans des situations où on va défendre sur du 1 contre 1. Et hier, bah forcément, avec en face deux bolides que sont Lorienté et Mofi, on s'est très vite exposé. On a vu le premier but, c'est la pure illustration de ça. Contre Monaco, c'était différent. Monaco, il y avait en face un Ben Yedder et un Volante qui étaient quand même en reprise, qui sont quand même beaucoup moins mobiles. Et on avait réussi à contenir, à mon sens, Monaco sur des coulissements. Tandis qu'hier, on était un peu plus exposé dans la profondeur. Et c'est pour ça, à mes yeux, qu'on s'est fait punir. En plus, avec ce premier but qui est, comme on disait en off, et sur lequel on reviendra après, une vraie erreur, à mon avis, collective de placement et de marquage et d'occupation d'espace.
Et de communication aussi. En tout cas, c'est ce que disait Jonathan Clauss en interview dans l'équipe. Et on en reviendra peut-être après, notamment par rapport au fait de jouer dans un Stade Bollaert de plein et qu'il faut qu'ils réapprennent à communiquer ensemble avec beaucoup plus de bruit autour. Juste, Antoine, on me dit dans le chat que tu as retrouvé ta voix par rapport à hier. En tout cas, ça fait plaisir.
Ouais, bah, oui, un peu de tisane, un peu de miel et ça va mieux.
Amaury, qu'est-ce que tu en penses sur ce point de la défense?
Moi, je pense que hier, j'avais la chance d'être juste derrière le coach, donc je voyais ce qu'il demandait assez facilement et j'arrivais parfois à entendre, même si c'était quand même compliqué. Il demande toujours à ces trois actos d'aller chercher plus haut, d'aller chercher les joueurs dans les interlignes. Donc, forcément, on s'expose. Et dès qu'on s'expose, j'ai l'impression que dès qu'on fait une erreur, on va la payer assez rapidement. Parce que oui, cette quête du déséquilibre, je suis d'accord avec Ben, on est volontairement déséquilibré. En revanche, dès qu'il y a une erreur individuelle, dès qu'il y a une sortie à contre-temps, dès qu'il y a un cadrage là-haut qui n'est pas fait, et bien forcément, on s'expose. Et avec un attaquant de la valeur de Mofi, ça peut se payer quand même. Moi, il m'a franchement impressionné pendant une heure de jeu, même si après, il était cuit. Et heureusement que l'Orienté n'était pas hyper inspiré, parce qu'on aurait franchement pu le payer bien plus cher.
Ça aurait pu faire mal, parce que c'est vrai que Mofi est aussi pas mal vendangé en deuxième mi-temps, notamment. Benjamin, la défense, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est raccord avec le milieu ou vraiment il y a autre chose?
Ouais, c'est vrai qu'on en parlait en off. Il y a sur ce match-là en particulier, il y a un problème. La ligne défensive est trop exposée. Donc, soit ça veut dire que la hauteur de bloc est trop avancée. Enfin, je sais pas où est le dysfonctionnement par rapport aux consignes. Ou soit ça veut dire que la ligne défensive est trop basse, mais en tout cas, en effet, le deuxième interligne est immense, et du coup, tu te retrouves en 1 contre 1 avec 50 mètres à défendre, et c'est facile pour personne, y compris pour des défenseurs qui ont été recrutés pour ça. Donc ça aussi, il faut bien le prendre en compte qu'on les a pris pour ses qualités-là, pour qu'il soit exposé dans ces situations-là. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Lens a fait un match complètement différent contre Monaco, où il est bloc bas, il arrive à défendre des longues possessions sans rien offrir. Franchement, Monaco, ils ont une demi-situation à la 70e, mais il ne se passe rien. Et donc, ils sont capables quand même de défendre différents projets. Là, Lorient, c'est très minimaliste. C'est transition et Inch'Allah. Il y a deux mecs sur des scooters et ils se sont fait prendre là-dessus. Mais je ne pense pas que ça soit représentatif des difficultés. D'ailleurs, quand on regarde les stats avancées, Lorient est la troisième meilleure défense en expected goals against. Donc, les chances, les probabilités qu'un tir devienne un but. Et quand on regarde sur les expected goals par tir, donc les valeurs de chaque tir qui sont subies par le RC Lens, c'est la première équipe. Donc en fait, on a l'impression visuelle qu'en effet, il y a des grosses situations, des situations chaudes, et c'est le cas. Mmh. Mais sauf qu'en effet, comme les défenseurs, en principe, sont très très forts dans la couverture des grands espaces. Donc si on les expose dans ces situations, ils savent normalement les gérer. Et puis, moi, c'est quelque chose dont je parle depuis la saison dernière, mais il y a le problème, entre guillemets, le cas, qui a toujours des absences sur des tirs anodins et qui offre pas mal de choses, qui est indispensable dans le projet parce qu'il a un jeu long, un jeu au pied extraordinaire, mais il a des lacunes avec les mains.
Là, sur le deuxième but, ses appuis sont aussi dynamiques que les biens, faut le dire quand même.
Ouais, et puis sa main, elle se ferme pas, et ouais. Voilà.
Mais c'est pas la première fois. On en parlera tout à l'heure dans les notes aussi. Ouais.
D'accord, on en parlera tout à l'heure.
Dans les notes avec aussi Gaël Kakuta. Dans le chat, on a Guillaume Réal qui dit en jouant haut, tu t'exposes forcément plus facilement aussi. Et puis Jean-Charles Delisle qui dit, et puis Lorient a toujours laissé deux offensives très très haut pour justement gêner nos défenseurs.
Qu'on se le dise, Valentin, je te coupe, mais moi, pour rien au monde, je jette le projet. Hein. On s'éclate à tous les matchs, on voit des buts, il se passe des choses. Alors, il y en a de moins en moins, Dieu merci, mais en Ligue 1, il y a quand même quelques équipes pour lesquelles je ne signerai jamais vu ce qui se passe sur le terrain.
On est bien d'accord. Pour finir sur les défenses, Sam, qu'est-ce que tu as à rajouter ?
Non, bah, si tu veux, pour moi, là, effectivement, le problème, c'était pas la défense sur ce match-là. Bon, effectivement, il y avait deux bolides en face. Je trouve que les trois défenseurs ont fait ce qu'ils ont pu. Ils l'ont plutôt bien fait. C'est ce qu'il y a, c'est que c'était toujours ce déséquilibre au milieu avec cette équipe coupée en deux qui font qu'il y a eu plusieurs possibilités pour les l'orienter. Mais globalement, moi, si tu veux, de mon point de vue, les défenseurs sont pas incriminés. Je trouvais qu'ils avaient globalement bien géré. Mais j'ai une image là de par exemple de Danso en deuxième mi-temps. Je sais pas si vous l'avez en tête, mais on est tout proche du 3-1. Donc sur un énième contre l'orienté qui regarde ses milieux de terrain, qui dit mais les mecs à un moment donné là on est en les orientés sont en surnombre de manière quasi systématique. Donc enfin de mon point de vue il s'agit pas de jeter tout le projet à la poubelle. Il s'agit de retrouver une forme d'équilibre qui permet en fait de trouver la clé face à des équipes qui viennent pour rester plutôt derrière et se projeter très rapidement comme on l'a vu avec Lorient ou Saint-Etienne, en fait. Et pour l'instant, globalement, il suffit de regarder les 10 ou 15 derniers matchs à Bollard, face à ces équipes-là qui proposent ce type de jeu-là, il n'y a pas eu beaucoup de victoires, en fait. Sauf les victoires au mois d'avril contre Lorient, d'ailleurs, de mémoire, et contre Nîmes.
Oui, contre Nîmes, contre, ouais, c'est ça, Dijon.
Mais sinon, il y a peut-être une victoire en 10 matchs. Et je trouve qu'en fait les coachs, et là, Pélissier, c'est un top coach. Il trouve face à ce lance-là à domicile la solution, de mon point de vue, un peu trop facilement.
Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous dites. On va quand même parler des coups de pied arrêtés parce qu'on a quand même eu un super but de Jonathan Clauss sur coup franc direct hier après-midi. Et c'est vrai qu'on n'a plus trop eu l'habitude, malgré celui qu'il avait marqué l'année dernière, de voir des coups francs directs, des coups francs bien tirés. Et au-delà de ça, je trouve aussi que les corners et les coups francs sont bien mieux tirés depuis quelques temps et provoquent peut-être quand même beaucoup plus de danger dans les surfaces adverses. D'ailleurs, Jonathan Clauss disait que le coach lui demandait de travailler beaucoup ses coups de pied arrêtés. Est-ce que les coups de pied arrêtés vont devenir ou sont la nouvelle arme du Racing Club de Lens aujourd'hui? Samuel, qu'est-ce que tu en penses?
On en avait déjà un peu parlé lors de la troisième émission. Effectivement, il y a eu ce changement. Alors, c'est pas sur tous les coups de pied arrêtés, mais c'est sur peut-être 75 ou 80% d'entre eux, c'est Jonathan Clauss qui les frappe, notamment les corners. De mon point de vue, il les tire magnifiquement bien. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas danger à chaque fois, mais il y a opportunité quasiment à chaque fois.
Il est bonne zone à chaque fois, je trouve.
Ah ouais, il avait trouvé Christopher Wu à quelques reprises contre Saint-Etienne. Il trouve là les défenseurs, enfin Danso qui monte. Il tire extrêmement bien les coups francs. Enfin à Lens, on est vraiment pas habitué à ça. Donc il y a un vrai changement par rapport à ça. Donc enfin de mon point de vue, effectivement, c'est une force. J'espère qu'elle va encore se renforcer dans les semaines à venir, parce que là c'est tout début quelque part. Hein. Jonathan Clauss qui tire des coups de pied arrêtés, et puis donc c'est ces grands défenseurs. Qui montent aux avant-postes, qui viennent d'arriver également. Donc là, il y a matière effectivement à aller chercher des buts dans les prochaines semaines, je pense. Ouais.
Qu'est-ce qu'on pense, toi, Benjamin ? Ça peut être aussi une force du Racing, ces coups de pied arrêtés ?
Ouais, moi, j'avais déjà observé des choses hyper intéressantes sur touche la saison dernière, notamment. Bon, j'ai cru comprendre qu'en fait, ça venait pas forcément d'Aise, mais c'était des reliquats de Montagnier qui les bossaient énormément. Mais en tout cas, on sent une volonté de travailler absolument toutes les phases de jeu, de rien laisser au hasard.
Exactement.
Ça c'est évident. Enfin, Francaise, on va pas lui brosser le poil dès le début de l'émission, mais je pense qu'il a pas beaucoup d'équivalent dans le championnat. Il a un parti pris tactique, il l'assume et il essaye de faire en sorte d'offrir dans ce projet le moins de choses possible, et ça fonctionne. Donc non, totale confiance en lui.
Amaury, qu'est-ce que tu en penses, toi, ce beau coup franc de Jonathan Clauss? D'ailleurs, dans les 20-25 premières minutes, on a eu trois énormes coups francs qu'ont apporté tous les trois le danger sur la cage lorientaise. Et c'était ces jeux en une touche de balle qui ont bien déstabilisé la défense lorientaise en début de match et qui ont d'ailleurs donné ces trois fautes et trois cartons jaunes. Très vite, et ces trois coups francs, donc très dangereux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Amaury?
Ouais, je pensais que ça allait être une clé des matchs d'ailleurs, parce qu'ils prennent très vite trois jaunes. On fait un premier quart d'heure qui est très bon. Et pour vous dire sur le but, si on devient dangereux sur coup de pied arrêté, alors là, on va vraiment être intéressant. Bon, il s'avère que le match a été moins intéressant après. Mais ouais. Jonathan Clauss, lui, dans la voie des sports, il est travail du jour, il est travail plus qu'avant. Et comme le dit Ben, du coup, c'est pas un hasard, c'est que le coach est hyper pointilleux, il surveille tous les domaines du jeu. Et ça paye. Et moi, je pense que, comme je viens de le dire, c'est pas du tout un hasard, c'est important. Et contre Saint-Etienne, on fait un très gros quart d'heure là où on est très dangereux en première mi-temps. Et en fait, c'est beaucoup de corners qui sont hyper bien tirés, qui trouvent les bonnes zones, où on trouve des joueurs quasiment à chaque fois. Et ça a participé clairement au temps fort. Donc c'est bien. Et pourvu que ça dure, parce qu'on a des bons joueurs de tête, je pense, même si Rouge a un peu moins, là, il avait été bien dangereux sur les premiers matchs. Et forcément que c'est une vraie arme. Ouais.
Et d'ailleurs dans le chat, Mathieu Lamoury qui nous dit: si on sait se rendre efficace sur coup de pied arrêté, ça n'apportera que de plus de variété offensive au jeu du Racing Club de Lens. Antoine, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur les coups de pied arrêtés?
Bah oui, tout simplement que déjà on en a remarqué un quelques mois après celui qui avait rompu une série de, je crois, 7 ans sans un but sur coup de pied arrêté. Je ne sais pas si tu savais ça, Benjamin, mais c'était le cas chez nous. On était vraiment, c'était désertique à ce niveau-là en termes de statistiques sur coup de pied arrêté. Donc là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que Clauss, à la 6e minute, il trouve le poteau. Et puis, en fait, un quart d'heure plus tard, il fait ficelle. Donc, on sent qu'il a énormément travaillé. J'ai l'impression aussi que Frankowski n'est pas très maladroit dans cet exercice-là, puisque c'est même lui qui, je crois, à un moment, en deuxième mi-temps, se met à tirer les corners à la place de Clauss. Quand Clauss était un peu fatigué pour retraverser le terrain, pour faire un corner rentrant. Oui, et comme vous l'avez tous très bien dit, je pense que Aise ne laisse rien au hasard. Effectivement, comme tu l'as dit, Valentin, très brillante intervention pour ta première. Si on, en plus, on arrive à être dangereux sur coup de pied arrêté, et qu'en plus de ça, on arrive à apporter de la variété avec Clauss sur son piston droit, Fofana dans le centre axe gauche, et peut-être qu'à terme, Machado, Frankowski, Kakuta va reprendre un peu du poil de la bête, sans parler des deux avant-centres. Oui, ça va tactiquement, je pense qu'on va commencer à, peut-être qu'on l'est déjà, mais on va peut-être commencer à vraiment devenir un calvaire pour les équipes adverses.
Alors tu parles de Seko Fofana, Antoine. Alors on va pas noter Seko, mais je voulais quand même en parler, puisque troisième but en 4 matchs pour Seko Fofana, buteur sauveur à chaque fois au Stade Bollaert. Est-ce qu'on devient dépendant, le Racing Club de Lens devient dépendant de Seko Fofana, ou est-ce qu'à contrario, c'est peut-être lui qui en fait un petit peu trop, parce que du coup, comme tu disais, comme on en parlait tout à l'heure, il délaisse peut-être un petit peu trop le côté défensif. Est-ce que vous voulez bien nous parler de Seko Fofana, buteur sauveur du Racing Club de Lens, Samuel?
Samuel, t'es muté.
Samuel, t'as été muté, ouais.
Ah, excusez-moi, les mecs.
C'est quand on insulte gratuitement Fofana.
Non, mais en fait, Fofana, en fait, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Fofana, c'est un immense joueur. C'est-à-dire que c'est même une anomalie qui joue dans un club comme Lens. Simplement, en fait, je suis en train de me demander s'il veut pas rattraper le temps perdu de l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, il a été très performant sans être forcément extrêmement décisif. Là, depuis le début de saison, il est extrêmement décisif, effectivement, avec avec ses trois buts. Voilà, simplement, moi, j'ai tendance à penser que le fait qu'il se projette vers l'avant a tendance à trop déséquilibrer l'équipe et à mettre le collègue milieu défensif en trop grande difficulté. Et même si Cheikh Doucouré est également un joueur extraordinaire, de mon point de vue, il peut pas colmater toutes les brèches. D'ailleurs, encore une fois, on parlait du schéma tactique. Pour moi, il est plus milieu relayeur gauche que véritablement milieu défensif. Ce qui fait que Kakuta, il est plus électron libre, mais il doit jouer peut-être plus milieu relayeur droit, qui est pas forcément son poste. Moi, si vous voulez, j'ai une vraie interrogation par rapport à tout ça. Je pense que ça peut marcher. Ce trident peut fonctionner, mais ça nécessite forcément une réadaptation tactique.
Benjamin, tu n'étais pas d'accord avec ce que je disais. Est-ce que tu veux rebondir ?
Non, mais enfin, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça soit une anomalie qu'en fait, qu'il soit au RC Lens. Je ne vois pas d'équipe où il ne serait pas titulaire en fait en Ligue 1. Peut-être à Monaco, où c'est un peu dur dans le double pivot. Mais sinon, partout ailleurs, en fait, il aurait sa place. Il sait absolument tout faire. Et là, il s'éclate dans ce projet de jeu. Il permet de jouer systématiquement ce qu'on appelle le troisième homme en mouvement, où en fait il y a une passe pour souvent Sotoka ou Kakuta qui sont servis en appui et qui vient faire la course et amener le surnombre. Et ça, c'est proprement indéfendable et c'est un des joueurs qui le fait mieux en France.
Exact.
Et c'est une grande partie d'animation offensive, donc je pense que oui, il y a une dépendance liée à Seko Fofana. Mais est-ce que je la trouve malsaine ? Pas forcément, parce que juste, il est tellement fort que forcément, les ballons arrivent vers lui. En plus, c'est un centre de gravité énorme parce qu'il a une bonne conservation, il a une bonne progression. Mais la difficulté, en effet, ça peut être un manque de créativité s'il est amené à se blesser. Et surtout, si...
je disais ça aussi, ouais.
On le sait, Kakuta, il peut avoir des temps faibles qui peuvent être assez longs dans une saison. Et si c'est combiné à ça, ça peut être inquiétant, mais c'est le lot de toutes les équipes. Si ton meilleur joueur il se blesse, bien forcément, sûr. T'es dans la merde.
Je me permets simplement de rebondir sur ce qu'en dit Benjamin, avec deux éléments. Premier élément, c'est qu'on se souvient, alors évidemment, c'est un autre contexte, mais donc Fofana est arrivé blessé à Lens. Et donc, en fait, Lens a commencé la saison dernière, et très bien commencé la saison dernière, avec Doucouré, Cahuzac en 6 et Kakuta en numéro 10, un peu électron libre. Ça avait très très bien fonctionné. La deuxième, je sais pas si vous vous souvenez, mais à quelques reprises la saison dernière, Aize, il a joué avec entre guillemets trois milieux défensifs, ouais. C'est-à-dire Cahuzac légèrement relayeur milieu droit et Fofana relayeur milieu gauche, ouais. et Kakuta avec un autre attaquant devant. Et on avait posé la question en conférence de presse, voilà, entre les deux schémas de jeu, lequel a votre préférence ? Et Fofana, il avait été très clair. Il a dit, voilà, moi je m'éclate vraiment quand je peux me projeter à fond, et donc dans un schéma avec Cahuzac et Doucouré. Mais donc, ça voulait dire avec un élément offensif en moins. Donc, après, dans ce schéma où il y a un 10 et deux attaquants de pointe, encore une fois, ça nécessite, de mon point de vue, un rééquilibrage tactique. Parce que sinon, je trouve que le Racing se met en difficulté trop facilement, en fait.
N'hésitez pas à nous donner votre avis hein, sur les différents chats de Culture sans erreur, comme Tonton Friedrich qui le fait. Alors certes, en Ligue 2, on était dépendant de personne, mais on était bof. Alors chaque club n'est finalement pas dépendant d'un ou deux joueurs en Ligue 1. Et puis on a aussi sur cette dépendance de Fofana et pourquoi pas aussi de Doucouré. La CAN qui arrive, nous dit Jean-Charles, et du coup, Fofana et Doucouré vont nous manquer. Est-ce que ça peut être préjudiciable pour le Racing ? Antoine, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Oui, effectivement, le fait qu'il y ait la CAN qui arrive, ça risque de nous coûter peut-être des joueurs. Franchement, pour moi, c'est compliqué de se projeter jusque-là, puisque déjà, le mercato, il n'est pas fini. On ne sait pas ce qui va encore se passer d'ici demain. J'ai tendance à dire que faut pas insulter l'intelligence de nos dirigeants. Je pense que oui. Clairement, si nous on le voit, eux ils le voient. À partir de là, voilà, c'est ma réponse. J'ai pas trop d'avis sur cette question-là.
De toute façon, on va reparler du mercato dans quelques instants dans Culture sans Meilleur.
Moi, je voulais juste rebondir sur
ouais, vas-y, Antoine.
Sur Fofana, effectivement.
Bon, Fofana, oui, c'est pour ça aussi que je te donne la parole. Ouais.
Fofana, oui, j'ai été un peu dérangé, je ne sais pas si vous voulez, juste avant. non, Fofana, effectivement, je me rappelle l'année dernière, à peu près à la même période, on parlait de Kakuta dépendance.
Exact.
Je pense qu'il ne faut pas qu'on retombe dans le même piège. C'est-à-dire qu'effectivement, Fofana aujourd'hui est très fort. Il est certainement intrinsèquement le meilleur joueur de l'équipe. Kakuta aujourd'hui, il est un peu dans un temps, et encore pas si faible que ça, parce que même hier, en étant moins en verve, on va dire, sur les 90 minutes, il peut quand même être décisif sur des avant-dernières passes ou même des passes décisives. Donc j'ai tendance à dire oui, gardons cet équilibre. Je pense que c'est collectivement sur les 10 joueurs de champ que doivent se faire les compensations quand Fofana il part à l'abordage pour transpercer des lignes. Donc c'est aussi ce que je voulais dire sur la Kakuta dépendance. Je pense qu'on est encore quand même au début de la saison. Ça peut étonner qu'on reparte un petit peu. On a l'impression des fois qu'on repart avec les mêmes erreurs que l'année dernière. Aussi savoir, à mon avis, quand Benjamin est certainement, et même Amaury, vous avez certainement plus d'expérience sur la partie tactique, mais je pense que ne serait-ce que de remplacer un défenseur central qui est badé par un nouveau joueur qui est forcément des caractéristiques différentes, ça amène la défense à devoir se réadapter et donc du coup à toute la pyramide, en fait le bas de la pyramide à se réadapter. Et au final, c'est peut-être pas non plus complètement étonnant que le fait d'avoir remplacé Badé par Danso et Wu nous amène à, entre guillemets, à devoir retravailler certaines sorties de balles, certains systèmes. Sachant que Ez le dit tout le temps. Je termine là-dessus. Ez le dit tout le temps en plus. Hein. On est étudié. Forcément, Lens a été l'équipe révélation la saison dernière. On a été étudié, à mon avis, par tous les data analystes de tous les clubs de France.
Qui en ont un.
Forcément.
C'est-à-dire deux clubs.
Ouais, c'est ça.
Bon, alors voilà, mais en tout cas, il le dit lui-même, il faut réussir à se réinventer constamment et c'est ça la grande difficulté.
On a sur le chat Waka Bayashi qui nous dit Machado et Frankowski ont moins l'habitude du schéma et ont des profils moins défensifs que Massadio Aydara. Est-ce que ça peut aussi expliquer le déséquilibre dont tu parlais, Samuel ?
J'ai tendance à penser que oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on parlait du schéma tactique, c'est vrai que quand on regarde le premier but l'orienté, j'ai plus l'image en tête, mais peut-être 5, peut-être 6 joueurs qui sont éliminés sur une passe. De mon point de vue, ça c'est quelque chose qui me paraît assez facilement corrigeable en fait. Donc peut-être que c'est encore une fois des joueurs qui viennent d'arriver. Il y a je pense possibilité de faire mieux que ça. Et en fait ça me fait penser aussi, vous savez, quand on parle de décalage, de compensation, j'entends aussi beaucoup de commentaires par rapport à Sotoka qui lui revient aussi beaucoup.
On peut pas parler de tout, mais ouais.
On peut pas parler de tout, mais en fait tout cela est de mon point de vue vraiment vraiment lié. C'est-à-dire que peut-être que Sotoka, qui est vraiment un joueur d'équipe, se rend bien compte qu'il y a un souci à ce niveau-là, et donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il fait tous ces efforts défensifs. Mais ouais, effectivement.
Sur le premier but, il est d'ailleurs pas fort bien placé selon moi.
Je l'ai plus en tête.
En fait, il est dans la ligne de 4 avec tous les autres, là, Kakuta et O. Et donc il est dans la ligne de 4, ce qui permet au défenseur axial de relancer très facilement à l'intérieur. Et enfin, c'est le début des dominos, mais je pense que ça nous pose problème.
Bon,
juste, je me permets de rebondir là-dessus. Je pense qu'on se fait quand même pas mal de migraines pour pas grand-chose, dans le sens où Lens reste invaincu. Non, mais ils ont pas perdu un match, ils sont invaincus. Les stats avancées montrent qu'ils concèdent un volume et des qualités de tir qui sont assez faibles. Et à l'inverse, en expected goals, ils sont troisième du championnat. Donc oui, à l'impression visuelle, t'as l'impression qu'il y a des boulevards dans tous les sens, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est conçu, c'est quelque chose qui est intellectualisé, qui est interprété par les joueurs. Et je pense qu'il faut accepter de vivre dans ce frisson-là, parce que ça t'apporte énormément de choses.
Benjamin, non mais si tu veux, moi j'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire que c'était déjà le cas la saison dernière. Hein. C'est-à-dire qu'en termes d'expected goals, le RC Lens était mieux classé que son classement final. Et comme tu le dis, ça a été étudié. Mais c'est simplement si tu considères le club, et moi j'ai aucun problème avec ça, comme effectivement un club relativement neuf en Ligue 1, donc qui a pour objectif, et c'est vraiment l'objectif, de se maintenir. Effectivement, là, t'as raison. C'est une migraine pour pas grand chose. Et là, on peut dire qu'on est super pointilleux et perfectionniste et tatillon. Et c'est vrai. Mais en fait, mon impression, parce qu'en fait, on se rend compte que l'an dernier, il n'y a pas manqué grand chose pour être européen. C'est que peut-être que ce qui fait la différence entre la 7e et la 6e place, ou la 7e et la 5e place, c'est à quelques reprises, peut-être des déséquilibres comme ceux qu'on a pu revoir, contre Saint-Etienne et contre Lorient.
Oui, ce n'est que mon point de vue. Si tu penses régler ce déséquilibre en mettant moins de joueurs devant le ballon en possession, mais peut-être que tu vas avoir un volume d'occasion qui sera inférieur et donc tu vas marquer moins de buts et tu vas perdre des matchs.
Peut-être.
C'est pas un jeu à somme nulle en fait.
Non, mais j'en parlais de la vie, peut-être.
On va parler de la tactique du RC Lens dans la deuxième partie de l'émission, pour qu'on avance un petit peu, parce que on a encore pas mal de choses à dire. On va passer au carton rouge sur ce match face à Lorient. Est-ce que vous avez des cartons rouges sur un joueur, sur une action, sur quelque chose? Antoine, est-ce que tu as un carton rouge à donner sur ce match d'hier après-midi?
Ouais, et puis ça va être un peu une première pour moi, mais si je devais mettre un carton rouge, effectivement, je le mettrais peut-être à Jean-Louis Leca. J'ai toujours été un fervent défenseur du gardien, mais on a quand même l'impression, effectivement, que sur ce match, ok, on concède des occasions, etc. À un moment, Mofi ou l'orienté tire dans le tapis au lieu de frapper la balle. Mais on a quand même l'impression que sur cette frappe de mon conduit qui est au final contré, hein. c'est pas une frappe placée, c'est vraiment une frappe contrée qui
touche énormément
de circonstances qui amènent la trajectoire de cette balle. On a quand même le sentiment qu'à un moment il faut qu'il pousse clairement sur ses appuis pour aller la chercher, parce que vu de la Marek, c'est toujours très difficile de on n'a pas de replay mais on a quand même l'impression qu'il lui manque quelque chose. Donc oui, si je devais mettre un carton rouge, ça serait sur Jean-Louis Leca sur cette partie. Ouais.
Amaury, ton carton rouge.
Mais écoute, moi, si tu me le permets, je vais le mettre sur 4 joueurs.
Oh là.
Qui sont.
J'ai demandé qu'un seul.
qui sont en fait juste les entrants. Je trouve qu'on a fait 4 changements et que ça n'a pas apporté l'effet escompté. On n'a pas senti, si tu veux, un dynamisme à leur entrée et une vraie différence avec des joueurs frais. Machado qui, moi, à titre perso, me déçoit quand même. Ensuite, on a eu Pereira qui, une nouvelle fois, n'a pas énormément pesé, je trouve, comme Simon Banza. Et le dernier, c'était Corentin Jean, je crois, qui est entré et qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc les entrants, oui.
Corentin Jean, je ne l'ai pas vu, ça devait être sur Amazon, peut-être.
Exactement.
Parce que je ne l'ai pas vu rentrer hier. Il y a Julien qui dit carton rouge à Amazon pour la coupure pendant quelques minutes.
Donc voilà, les entrants qui n'ont pas apporté, selon moi, suffisamment.
Super. Samuel, toi, ton carton rouge ou tes cartons rouges, parce qu'apparemment, on en a même plus hier.
Non, mais en fait, si tu veux, à chaque fois, on parle de carton rouge, c'est plus une réprimande, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phase de jeu. De mémoire, c'est en première mi-temps où il y a un contre pour Lens côté gauche et Kakuta sert Frankowski. Et il y a une incompréhension avec Frankowski qui veut prendre la profondeur et Kakuta qui le sert dans les pieds. Donc, au final, le ballon sort en touche.
En touche, ouais.
J'ai été marqué par la réaction de Kakuta qui s'en est pris vertement à son coéquipier, donc Frankowski, qui pour le coup, en fait, c'est juste un quiproquo. Et en plus, voilà, les deux joueurs ne parlent pas forcément. Exactement, c'est un choix. Ils ne parlent pas forcément dans la même langue. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a déplu dans le comportement. Et je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, même si c'est une de mes spécialités. Mais disons que pour moi, c'est le comportement de quelqu'un qui n'est pas dans son élément. Et je pense qu'il est voilà le Kakuta. Je le sens frustré en ce moment. Il évolue pas comme il le souhaiterait. Et alors je lui fous quand même un petit carton rouge par rapport à ça. Mais Mais voilà, disons que je pense que c'est révélateur de quelque chose de plus profond. Enfin, à mon avis, il y a à gratter, il y a des trucs à voir.
On va mettre Kakuta dans la note justement qu'on va donner tout à l'heure. On va donner la note à Kakuta. Qu'est-ce qu'on a ? On a Jean-Charles qui donne un carton rouge à KU. J'ai un peu retrouvé le KU qui ralentit le jeu comme il y a 2 ans. Benjamin,
il n'en prend plus des cartons rouges, KU. Faut pas mettre un carton rouge alors qu'il en prend moins.
Benjamin, est-ce que tu aurais à toi un carton rouge à donner sur ce match d'hier?
Peut-être au lobby corse, en effet, Cahuzac et le K qui ont été un peu en dessous, à mon avis. J'ai vraiment peur que Cahuzac, physiquement, ça soit fini pour la Ligue 1. J'espère me tromper, hein. mais sur un projet aussi exigeant que celui du RC Lens, où il y a des espaces monstres à les défendre, à attaquer, et là, tu es isolé dans le double pivot, tu vois la différence, elle est frontale avec Doucouré, donc ça m'effraie un peu, alors qu'il peut apporter d'autres choses, bien sûr. Et puis, la LEC, là, il y a un but qui est entièrement pour lui, donc c'est un peu gênant.
Allez, on avance. Ouais, on va noter Gaël Kakuta, justement, sur la note.
Valentin.
Ouais.
Pour Benjamin, une question. Donc, lui, s'il a une reco à faire là, au board, il faudra peut-être recruter un 6 supplémentaire. Quoi.
Ouais, enfin, surtout, vous avez parlé de la CAN, c'est clair que c'est super inquiétant quand t'as tes poumons au cœur du jeu qui vont disparaître, alors qu'ils permettent justement de te protéger sans ballon et d'amener le surnombre avec. Ouais, mais j'ai pas de conseils à donner au board, je sais qu'il travaille très bien.
On l'a vu assez fréquemment, c'est vrai. On va noter Gaël Kakuta, du coup, avec son match d'hier, et puis même par rapport au son début de saison, que je trouve quand même beaucoup moins abouti que la saison dernière. Quelle note vous mettriez à Gaël Kakuta sur ce match d'hier face à Lorient? Amaury, combien tu mets à Gaël Kakuta, toi?
Écoute, très rapidement, 5. Je trouve qu'il a pas l'emprise sur le jeu qu'il devrait avoir. Et que Fofana vient un peu empiéter sur ces espaces. Et, enfin bref, 5.
Antoine, combien à Gaël Kakuta?
Alors moi, j'aurais mis 4. J'ai vu que l'équipe avait mis 3. J'ai trouvé que c'était un peu dur. Je ne l'ai pas trouvé transcendant. Maintenant, j'ai quand même trouvé que par moment, il arrivait à faire...
2-3 situations.
Ouais. 2-3 situations. Donc 4-5 peut-être. Ouais. J'ai le souvenir, je crois, où il mange complètement à Bergel ou Monconduit, je crois, sur un lever de ballon au milieu de terrain qui crée une action, je crois.
Il décale à droite derrière, ouais.
Ouais, sur Sotoka qui lui par contre choisit dans son altruisme traditionnel de la remettre dans l'axe alors qu'il doit juste frapper fort dans le but, en direction du but. Donc Kakuta en petite forme, mais je trouve que c'est un peu dans la, comme disait Benjamin, il est capable, et ça on l'avait aussi un peu aperçu l'année dernière, il est capable d'avoir quelques matchs où il est un peu moins dedans, mais même quand il est un peu moins dedans, je trouve qu'il est toujours capable de cette petite étincelle qui peut faire la différence dans un match.
Samuel, ton carton rouge.
Bah, le carton rouge, je l'ai déjà mis à Kakuta.
Oui, ton carton rouge, la
note. Non, c'est rien, c'est rien. Bah, je mettrai 4 aussi. Disons que Gaël, il a un jeu effectivement qui est extrêmement spectaculaire. Il est capable de fulgurance. Mais effectivement, pour l'instant, c'est pas ça. Statistiquement, c'est pas ça. Dans sa relation avec les attaquants, c'est pas ça. On se souvient qu'en début de saison dernière, outre les arabesques et les dribbles, et c'était très beau, il y avait quand même une efficacité et un lien très fort avec Ganago qu'on ne revoit plus. Voilà, c'est insuffisant. On va pas se le cacher par rapport à ce qu'il représente. C'est insuffisant. Donc, sur ce match-là, je lui mettrai 4.
Allez, on avance. C'est vrai qu'on n'est pas, en avance aujourd'hui. On avait beaucoup de choses à dire sur ce match face à Lorient. Un petit point sur la Nationale 2 qui n'en finit pas de perdre. Nouvelle défaite à Schiltigheim pour les hommes de Johan Démon. Défaite 1-0. Quatrième défaite en 4 matchs. Les féminines, par contre, elles ont encore gagné pour leur dernier match de préparation avant le début du championnat. Victoire 4-2 face au Havre. On fait un point mercato quand même parce que c'est chaud. Hein. La clôture, c'est bientôt. C'est dans quelques heures et on apprend, en tout cas on entend que Kalim Wendo ferait son retour au Racing Club de Lens. Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce une bonne pioche? Personnellement, je pense que oui. Est-ce finalement inattendu que Kalim Wendo revienne au Racing cette année? Qu'est-ce que tu en penses, Amaury?
Moi, je pense que c'est une bonne pioche. J'ai osé espérer naïvement qu'on arriverait à le faire pour plus qu'un prêt sans option d'achat. Malheureusement, a priori, ce sera plutôt un prêt sans option d'achat. Mais je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien dans sa capacité à éliminer dans les petits espaces. C'est ce qui nous manque cruellement, je pense, avec Ganago et Sotoka notamment. Ils sont très souvent hauts et du coup, il nous manque clairement de capacité d'élimination et lui va nous apporter ça. Et j'ose espérer qu'il aura un peu plus de temps de jeu que l'an dernier.
Tu es d'accord aussi, Antoine ?
Oui, tout à fait. Je pense que, ce qu'on remarquait, c'est qu'on va quand même se faire prêter un joueur de grand talent qui, je pense, pour moi, dès la saison dernière, avait déjà le niveau de la Ligue 1. Cette année, il l'aura certainement encore plus pour 2 ans en étant payé. What else ? Enfin, je pense que là, en termes de
merci Leonardo.
Voilà, ouais, merci le grand directeur sportif qui est Leonardo qui a dubé par toute une communauté parisienne. Bref, là n'est pas le débat. Mais en tout cas, c'est une super pioche. Je pense qu'en plus de ça, comment est-ce qu'on peut rêver mieux comme recrue qu'un joueur qui a déjà fait une saison avec l'équipe ? Et tu parlais justement, Valentin, à juste titre, que Kakuta, on le sentait un petit peu orphelin de sa très bonne relation avec Ganago. On va peut-être aussi avoir le retour de la Congolese Connection avec Kalimundo et Kakuta. Ça peut peut-être aussi permettre à notre numéro 10 de retrouver un peu de sa superbe dans le style de jeu qu'apporte Kalimundo. Donc oui, super coup, je pense, de faire revenir Kalimundo cette saison.
Rapidement sur Kalimundo, Benjamin, qu'est-ce que tu en penses, son retour à Lens ?
Non, mais je partage à peu près tout ce qui a été dit. Je vais juste ajouter autre chose, c'est que pour le RC Lens, c'est assez dur de trouver un attaquant pour la simple et bonne raison que tu peux pas trop poser sans ballon. Donc, en fait, sur le marché, finalement, t'as pas 10 000 options parce que la plupart des mecs actuellement, ils ont fini leur action, ils vont se replacer vite fait en trottinant et pas chez vous. Donc, Kalimundo, il a cet état d'esprit qui correspond absolument au projet. Il connaît la maison, il a ses marques, il est super puissant, super bon dans la profondeur. Je pense qu'il coche à peu près toutes les cases, quoi.
Samuel, rapidement aussi sur
ta... Non, mais voilà, tout a été dit. Ce qu'on peut noter également en plus, c'est que effectivement, dans un premier temps, c'était pas le souhait numéro un de Kalimundo de revenir à Lens. Il attendait une possibilité en Italie, notamment à l'Atalanta, pour jouer la Ligue des Champions. Bon, finalement, ça n'a pas pu se faire. Donc, il choisit assez logiquement Lens. Ce qu'il faut dire, c'est que ça veut aussi dire qu'il a refusé d'autres clubs qualifiés pour des compétitions européennes, notamment un club 35 km plus au nord. Donc ça veut peut-être vouloir dire aussi quelque chose par rapport à son attachement, au moins au projet de jeu et comment dire au staff et à ses coéquipiers au Racing.
Le petit tag de Samuel Dianel, merci.
Non, mais c'est à noter quand même parce que je pense qu'il aurait pu jouer la Ligue des Champions avec le LOSC et il choisit la Ligue 1 avec Lens.
Ouais. La jouer.
Oui. Oui, on va parler un peu de l'ambiance de Bollaert, si vous voulez bien, parce que il y a des gens qui sont pas tous d'accord. Il y en a qui trouvent que l'ambiance était sympa. Moi, à la télé, j'ai trouvé en tout cas ça sympa. Et puis il y a ceux qui étaient au stade, notamment Marek, qui sont un peu plus mitigés sur l'ambiance du stade Bollaert en ce moment. Certains qui trouvent des chants trop longs, certains qui trouvent que le public pousse pas assez quand il faut pousser les joueurs, notamment en fin de match. Antoine, toi qui étais au stade en Marek hier, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance à Bollaert ?
Bon, moi, c'était mon retour, donc je ne peux pas dire autre chose que j'ai eu des frissons quand j'ai retrouvé déjà les potes et que en fait, tu retrouves un peu ton perchoir privilégié avec cette vue plongeante, avec les drapeaux, voilà. Après, effectivement, il y a toujours eu un débat. Ça fait des années qu'on entend que l'ambiance en Marek n'est plus ce qu'elle est ou qu'elle mériterait d'être. Oui, effectivement, on peut toujours critiquer, on peut toujours dire que ce n'est pas assez bien. Maintenant, il y a quand même des moments où ça pète fort, etc. Moi, je pense que le risque, et je pense que là, j'essaie un peu de sortir de ce débat, hein, est-ce que l'ambiance est bonne ou pas, mais le risque, je pense qu'il est un peu global. C'est-à-dire que la saison dernière, on fait une saison extraordinaire. À tous les niveaux, mais le public n'était pas là. Cette saison, le public revient au stade et forcément, quand tu joues à un Lens Saint-Etienne à domicile, avec une communication parfaitement ficelée, hein, ce petit spot de quelques minutes avec le Louvre-Lens, etc., il y avait toute une attente. Alors, je ne dis pas que le spot de communication était le catalyseur, mais il y avait quelque chose. Faire match nul en étant mené deux fois. Là, on joue contre Lorient, on ouvre le score et deux minutes après, on se prend une clim. Il y a peut-être un peu de frustration, il y a peut-être un peu, effectivement, on aurait voulu exploser et se dire, voilà, on gagne notre premier match à Bollard, ce qui n'est pas le cas. On fera ça au prochain match.
Rapidement, sur l'ambiance de Bollard, Amaury, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'on est un peu à l'image de ce qu'on fait sur l'équipe. Là, on pinaille un petit peu sur de l'excellence qui est pour nous de l'inespéré. Clairement, je me suis dit à un moment donné, en deuxième mi-temps, qu'on avait un petit trou d'air aussi en tribune. On a même sifflé un petit peu à un moment donné. On reste excellent, mais c'est vrai que je pensais qu'on se serait un peu plus enflammé à la fin pour pousser. Mais bon, on reste les meilleurs.
Tu veux dire quelque chose toi aussi, Samuel, là-dessus?
Bah, en fait, si vous voulez, moi, je m'interroge par rapport à je vais être provocateur aussi, mais à l'intérêt du public de Lens. C'est-à-dire qu'en fait, je vous mets 30 secondes dans la peau d'un téléspectateur, alors pas forcément en français parce que il aurait raté la fin de match, mais du téléspectateur moyen chinois ou du téléspectateur moyen allemand qui tombe sur un match de Lens. Il est évident que le mec se dit, mais c'est magnifique, ça chante, c'est beau, ça donne envie. Enfin, je trouve que le RC Lens pour la Ligue 1, c'est un super produit d'appel. Donc ça, il y a aucun problème là-dessus. Top public, 35 000 hier encore. Bref, top. Mais en fait, je sais pas si c'est aussi simple que ça, mais moi, j'ai tendance à penser que peut-être que ce public, devrait avoir pour objectif, je sais pas si c'est possible encore une fois, mais de transformer des matchs nuls mérités en victoires imméritées. Ce que je veux dire par là, c'est que contre Saint-Etienne et contre Lorient, à deux reprises, il y a donc l'équipe qui réussit à renverser le match avec un but qui arrive relativement tardivement, une égalisation qui arrive relativement tardivement. Et dans les deux cas, alors j'ai vu les deux matchs à la télé, Amaury pourra peut-être confirmer ou pas, mais dans les deux cas, je pensais qu'il allait avoir une forme d'enthousiasme supplémentaire pour pousser l'équipe pour aller chercher le troisième but comme une forme de vague en fait. Et j'ai pas ressenti cette vague là. Alors moi j'entends ce que dit Amaury sur le côté voilà on pinaille, c'est vrai. Mais je suis en train de m'interroger sur comment on fait pour quand ton équipe elle égalise à la 75e que l'équipe adverse elle soit submergée par un élan populaire qui fait que tu encaisses le troisième à la 85e. Et je pense qu'on
hier, on l'a eu.
Méthode niçoise, j'espère.
Tu dis ?
Tu exclus toute méthodologie niçoise, j'espère.
Ah, évidemment, j'exclus la méthodologie. J'ai en tête. Enfin, après, je suis un vieux, mais il y a des. Enfin, quand on repart de la Coupe d'Europe 2000, etc. Enfin, c'était un truc. On se disait, c'est le stade qui faisait gagner les matchs. Ouais. Et ça fait longtemps qu'on n'a plus ça.
Hier, on l'a eu, Antoine, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais enfin, toi, c'était plus dans le brouhaha du COP, mais vers la 80e, sur une action, une remontée de balle, tout le monde s'est levé d'un coup et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais c'est vrai que ça a été sur très ponctuellement et pas sur les 10 dernières minutes pour vraiment tout s'enflammer.
Ouais. Allez, on va. Il est l'heure de la mi-temps. Parce que quand même,
on est en retard. Et Valentin, surveille l'horloge, Valentin.
Les arrêts de jeu ont duré plus longtemps que prévu. On va passer au quiz de Culture sans Yor. Et je vous ai préparé un quiz un peu stat, puisque Benjamin est là avec nous ce soir. On va parler du top 10 des joueurs du Racing Club de Lens sur la saison dernière, hein, 2020-2021, qui ont eu le meilleur ratio passe réussi pour des joueurs qui ont au moins joué 5 minutes dans la saison.
Ça va être le cas.
Alors, dites-moi, on va commencer. Tiens, Benjamin, tu nous dis qui, toi ?
Bah oui, enfin les passes réussies en général, c'est les défenseurs, puisqu'évidemment, ils sont des passes qui ne sont pas sous pression. Et le cas, ça pourrait être lui, ça pourrait être Grady.
Faut que tu nous donnes une proposition.
Je veux dire le cas.
Un tour de rôle. Tu nous dis qui ?
Jean-Louis Leca.
Eh ben écoute, je ne l'ai pas dans le top 10, Jean-Louis Leca. Okay. En pourcentage de réussite, je ne l'ai pas dans le top 10.
Il a trop de bons ballons perdus.
Ouais, donc, il a dit là-dessus.
Désolé, Benjamin, tu sors déjà du quiz.
Tu n'as pas à t'excuser.
Amaury.
Loïc Badet.
Loïc Badet, c'est bon. Antoine.
Je dirais Grady.
Jonathan Grady, c'est bon. Samuel.
Bah, je vois que les deux gars ont gardé la philosophie qui a été décrite par Benjamin.
Je l'avais en tête.
Ah ouais, non, mais je vais quand même monter d'une ligne, je veux dire Cheikh Doucouré.
Cheikh Doucouré, c'est bon. On passe à Amaury.
Grand seigneur. Medina, même s'il prend plus de risques lui quand même.
Tatoune de Medina, c'est bon. Antoine.
Je dirais Cahuzac.
Yannick Cahuzac, c'est bon. Allez, Samuel.
On garde la même méthodologie, je vais dire Fortes.
Sylvain Fortes, c'est bon. Amaury.
Aïdara.
Mathia Dio Aïdara, c'est bon. Antoine.
Clément Michelin.
Clément Michelin, c'est faux.
Oui,
ouais, mon cher Antoine. Samuel.
Bah, il est tellement fort, je vais dire Fofana.
C'est quoi Fofana, c'est bon, Amaury.
Écoute, je vais prendre un risque et je vais dire Florian Sotoka.
Et malheureusement, c'est un risque qui n'est pas payant, Amaury. Puisque Florian Sotoka n'est pas dans le top 10. Est-ce que tu en as encore un, peut-être, Samuel? En tout cas, tu as déjà gagné le quiz.
C'est 5 minutes de temps de jeu minimum.
Ouais.
Je vais tenter Pereira da Costa.
Eh bien non, pas de Pereira da Costa, mais en revanche... vous allez être surpris par celui qui a le meilleur ratio puisqu'il a 100% de réussite dans ses passes.
Il a joué 9 minutes.
Il a joué 8 minutes. 8 minutes face à Brest l'année dernière. Un certain Adrien Louveau.
Ah oui. Voilà. Ouais. Bah, auquel on pense fort parce qu'il est, il est en rééducation là. Donc
ouais.
On pense fort à lui.
Bon, félicitations Samuel qui remporte le quiz pour cette première, pour ma première en tout cas. Félicitations à Samuel. On passe tout de suite à la deuxième période. La deuxième mi-temps de ce Culture sans et or. À la fin, on fera une petite projection rapide sur le match à Bordeaux. Mais d'abord, Benjamin Charrier de l'agence de conseil et optimisation pour acteurs du foot Ta Compo. Tu es notre invité ce soir. Alors d'ailleurs, je vous conseille de suivre son compte Twitter, @faitacompo sur Twitter, qui débrief des phases de jeu, des actions, des nombreux buts de match. Et c'est assez passionnant. D'ailleurs, je me suis un peu perdu dessus plusieurs fois. Et c'est assez passionnant. N'hésitez pas à poser aussi vos questions à Benjamin via nos différentes chats. Pour commencer, Benjamin, on se focalise sur toi. À l'instar de Thierry Henry, comment toi, tu qualifierais en un mot le style du RC Lens?
À l'espagnol, je veux dire protagoniste.
Protagoniste. Alors toi qui as un petit peu l'œil de l'expert, hein, puisque tu analyses pas mal de matchs et tu as monté.
S'il faut, je dis de la merde tout le temps. Hein. Parce que j'ai des choses avec un ton péremptoire que c'est juste.
En tout cas, comment tu pourrais expliquer peut-être à des personnes plus néophytes en termes de principes de jeu, de tactique, le style RC Lens et qui fait la force du RC Lens, et qu'est-ce qui peut t'impressionner dans ce style du RC Lens à toi?
Ben, c'est vrai qu'on a esquissé un peu les contours du projet dans la première partie de l'émission, mais c'est quasiment un projet impatient, si j'essaye de le qualifier. C'est-à-dire il y a une recherche de la verticalité et du contrôle de la verticalité adverse qui est permanente. C'est pas du jeu de position, par exemple, c'est pas du tiki-taka, c'est pas non plus un bloc bas de terroriste. Et voilà, on essaye d'étouffer l'adversaire avec et sans ballon, mettre énormément d'intensité en fait. Et il y a des prises de risque permanentes, ça, et qui sont assumées. J'espère qu'on en parlera. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse le plus quasiment dans le club, c'est cette corrélation entre projet de jeu et recrutement. Trop souvent, on voit un coach et un directeur sportif qui s'opposent sur des profils. Et là, ça travaille complètement en symbiose, en fait. Et le recrutement de Frankowski, il est en ligne droite de ça. C'est-à-dire que c'est un ailier. Bon, je fais un hors-sujet, mais parce que ça m'intéresse vraiment. C'est un ailier à l'origine. Et puis, ils ont vu en lui des qualités de piston pour le projet de Lens. Et ça, c'est assez formidable. Et ça te permet, en fait, d'envisager d'être performant à moyen, long terme. Parce que quand tu engages un joueur qui correspond à une certaine philosophie qui n'est pas durable, qui n'est pas pérenne, qu'est-ce que tu fais du joueur après? Là, ils ont conçu ça, ils ont réfléchi, ça va être, à mon avis, ça va être, Franquès va rester un moment, et on lui donne les moyens de travailler. Et si on doit faire peut-être une comparaison, je dirais l'Atalanta de Bergame, même s'il y a des différences dans le sens où en phase défensive, ils sont pas en individuel, tout terrain, comme le fait l'Atalanta, où c'est chacun son joueur, et puis rien à foutre, même si on va pas compenser, on va pas coulisser, enfin, j'exagère un peu. Mais voilà, c'est ça, c'est voilà, beaucoup de courses, beaucoup d'énergie, un jeu vers l'avant, de la percussion et des prises d'initiative et des prises de risque permanentes, y compris des centraux, ce qui est fortement encouragé par Franck Hez. Si ces centraux demain arrêtent de conduire, arrêtent de casser des lignes par la passe, il ne se passe plus rien derrière. Donc voilà, c'est vraiment tout le monde regarde dans la même direction et tout le monde a des qualités qui vont correspondre à ce projet-là.
Et du coup, ce style de jeu qui, quand même, à contrario, peut amener des faiblesses. Quel type de faiblesses?
Tous les projets de jeu ont des faiblesses, de toute
mais
façon.
Mais dans ce style-là précisément, celui de Frank Hez, en tout cas, quels sont les points de vigilance, ou en tout cas, à avoir pour les joueurs et ce que peut leur demander le coach?
Ben, on a parlé des transitions. Moi, je vais parler surtout des... Enfin, je sais même pas si ça existe, mais des contre-transitions, c'est-à-dire quand Lance récupère la balle, il s'engage dans une transition offensive, et s'il la perd à ce moment-là, mais c'est la merde complète, parce que en fait, tout le monde a commencé à faire ses courses vers le but, et toi, tu te fais prendre à contresens et tu es toujours en infériorité numérique. Mais encore une fois, ça a été réfléchi, ça a été conçu, et tu as pris des défenseurs centraux qui sont à l'aise, qui sont mobiles, qui sont performants pour travailler des ailiers à la course. Et donc, tu te dis, j'accepte de vivre ces situations parce que j'ai les centraux qui peuvent les contrôler.
Et on a sur le chat Tonton Friedrich qui nous demande, comment toi, tu analyserais notre jeu sans ballon, le jeu du RC Lens sans ballon?
Bah, beaucoup, beaucoup de presse. Il y a un contre-pressing, donc le pressing à la paire. Dès que tu perds la balle, il y a des changements de statut qui sont immédiats. Et c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que Sotoka, par exemple, c'est l'exemple parfait de ça.
C'est là où je voulais en venir.
C'est quelqu'un qui est complètement indispensable. Il peut faire 10 matchs sans marquer, sans faire de passe décisive, ça fait rien. Il est dans le projet, il est vraiment pertinent. Et puis, il y a une volonté de jouer bloc haut dès que possible. Mais ce que je trouve passionnant dans ce début de saison, c'est qu'on a vu, on a parlé contre Monaco, ils sont bloc bas. Et puis c'est résilient en fait. C'est efficace. Donc, s'ils arrivent en plus de ça sur certaines oppositions où ils savent que s'ils gardent le ballon, ils vont être en difficulté, de changer ça juste pour ça, pour un match, ils peuvent voyager quand même, ils peuvent aller loin.
Antoine, tu voulais réagir?
Oui, en fait, Benjamin parlait de bonnes relations entre un DS et un coach. Enfin, je voulais juste rappeler que c'est Arnaud Puy qui en parlait il n'y a pas très longtemps. Il parlait de sa relation avec Francaise, d'une relation 5 étoiles. Et en fait, effectivement, on a vraiment l'impression que les deux hommes ont vraiment un vrai respect mutuel et une vraie envie de travailler de manière bilatérale. Et effectivement, j'aime beaucoup quand Benjamin parle de corrélation entre un projet de jeu et une politique de recrutement, puisque c'est vrai que ça transpire au RC Lens depuis maintenant deux saisons.
Un peu comme Arsenal.
hier le match, et c'est vrai qu'on a eu pas mal de tirs dans le match, hein, des deux côtés d'ailleurs. Je crois que c'est le chiffre, il me semble, c'est 35 tirs. Les matchs de Lens, on l'a souvent dit, on l'a vu l'année dernière, ça donne du spectacle, c'est super à voir, même pour surtout pour les personnes qui supportent pas le RC Lens. En tout cas, on s'ennuie pas en regardant le match. Mais peut-être que finalement, un petit peu trop de spectacle parfois pour sécuriser certaines victoires. Qu'est-ce que t'en penses, Benjamin?
Ouais, bah, on en a déjà parlé plusieurs fois de ça, mais moi je pense que c'est une fausse réflexion, c'est un mauvais calcul, parce que encore une fois, c'est ton projet, et si tu penses que en décalant un petit rouage, tu vas le davantage équilibrer, tu sais pas ce que ça va causer, et tu sais pas à quel point tu vas être moins pertinent en attaque. Donc non, je crois pas que ça soit la réflexion à apporter spécifiquement avec ce début de saison-là. Si on voit qu'il y a une série de 10 défaites où ils sont inoffensifs offensivement et qu'en plus ils offrent beaucoup de choses sans ballon, là peut-être qu'on pourra se la poser. Mais je crois pas qu'on soit à l'état de cette réflexion pour nous.
Depuis l'arrivée du RC Lens l'année dernière en Ligue 1, le retour en Ligue 1, est-ce que tu trouves que le Lens de Francaise, surtout Francaise du coup, a amené une espèce de vent de fraîcheur, un renouveau pour la Ligue 1?
Complètement, complètement. Ouais. Je pense que lui et Niko Kovac ont apporté énormément de choses à la Ligue 1 dans deux styles complètement différents, mais qui aspirent à contrôler le match. Et d'être très dangereux, très létal avec ballon. Et bon, voilà, la Ligue 1, elle souffre d'une réputation très conservatrice, où d'abord on n'offre rien et puis après on voit ce qui se passe dès qu'on a le ballon. Mais moi, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu choqué dans toute mon éducation footballistique, où en fait la prime à la victoire, elle est récompensée. La différence entre un nul et une victoire est énorme par rapport à une défaite. Et un nul, et pourtant tu joues pour ne pas perdre. Et ça c'est quelque chose. Frank Hez casse ce dogme, et moi ça m'intéresse beaucoup.
Je prends l'exemple de Frank Hez, je pense aussi à Pascal Gastien, que je trouve pas mal aussi à Clermont.
Il est extraordinaire. Mais la comparaison, elle est peut-être plus significative avec Laurent Batless.
Aussi.
Dans le projet de jeu, en fait. Mais Gastien, il est extraordinaire aussi. Mais
est-ce que ça démontre pas aussi qu'on ne laisse pas, ou en tout cas qu'on ne laissait pas leur chance à ce type de profil un petit peu moins renommé en Ligue 1 pendant des années, et on voyait souvent un petit peu les mêmes tournées dans tous les clubs, je pense à les Elibop et compagnie. Est-ce que
ils faisaient une chaîne télé et puis ils revenaient sur un club et puis
voilà. Est-ce que finalement il faut aujourd'hui donner sa chance à des entraîneurs peut-être un petit peu moins renommés mais qui offrent ce style, ce nouveau vent de fraîcheur un petit peu dans le football?
Bah, c'est une excellente question, et en fait je pense que ça part d'un arbitrage qui à mon avis est erroné. On se dit en fait un entraîneur c'est d'abord un manager, ce qui est vrai bien sûr, mais il va falloir qu'il subisse des égos, il va falloir qu'il sache trouver les mots, il va falloir que il caresse un peu des joueurs dans le sens du poil. Et en fait je pense qu'il y a une autre voie, c'est-à-dire des managers qui créent un engouement par le jeu et qui vont entraîner des joueurs parce qu'ils s'amusent et ils retrouvent leur âme d'enfant, et ils amènent quelque chose de très ludique à des mecs qui sont là par passion d'abord. Et Gastien, c'est exactement ça. Batless, c'est exactement ça. Julien Stéphan, quand il est arrivé à Rennes, c'était exactement ça aussi. Et Franquès, ça l'est aussi. Et il y a ce côté-là aussi, ex-formateur, qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce que dans une ère du football où tu as besoin d'avoir les reins solides économiquement, en fait, il va falloir que tu valorises des jeunes joueurs et donc que tu continues à les faire progresser. Et des mecs qui sont des dinosaures un peu du football, qui sont sur des bancs depuis des années, ils sont là pour chaque week-end essayer de ne pas perdre. Et ils ne sont pas nécessairement là avec une âme d'éducateur, une âme de transmission. Et ça, Franquès, il l'a. Et moi, je trouve que c'est un éloge extraordinaire, en plus d'avoir des résultats, de regarder ton effectif et de dire « Putain, mais les mecs, ils ont progressé en fait depuis le début de saison. Je les ai pris à un endroit, je les ai amenés à un autre. » Et ça, c'est ultra valorisant.
Bon, là, moi, je trouve pas, j'ai pas l'impression que tu dis beaucoup de choses n'importe quoi, hein, Benjamin, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est plutôt passionnant et on en apprend beaucoup. Justement, je voulais un peu qu'on parle de toi et de cette agence Tacompo, agence de conseil et optimisation. Comment toi, tu t'es retrouvé dans ce monde de l'analyse tactique, l'analyse footballistique?
Déjà, en fait, je suis un peu gêné parce que l'agence, elle existe, mais je ne l'ai pas encore officialisée.
D'accord.
Donc, voilà, les gens qui vont regarder l'émission vont l'apprendre comme ça. Mais j'attendais notamment d'avoir plus de certitudes sur le service data que j'essaie de créer aussi. Et c'est accidentel. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Moi, le foot, c'est ma passion depuis toujours, mais j'ai jamais pensé que je pouvais apporter quoi que ce soit à qui que ce soit. J'en parlais avec mes amis. Et comme je pense beaucoup de Français, je me suis retrouvé un peu dans l'oisiveté avec le confinement. Et j'ai dit, vas-y, je vais ouvrir un compte Twitter et je vais voir, je vais expliquer les trucs que je vois sur le match et puis on verra ce que ça donne. Et puis ça a fonctionné et j'ai rencontré des professionnels du milieu qui ont montré de l'intérêt aussi. Voilà, j'ai pas eu d'opportunité encore. Enfin, j'ai passé des entretiens avec des dirigeants de club, mais j'ai pas eu de proposition. Et donc je me suis dit, écoute, ça a l'air de plaire à certaines personnes, je vais lancer mon truc. Et voilà, pour l'instant ça fonctionne bien et on verra à moyen long terme, c'est difficile de savoir.
Et justement, tu parlais que tu as rencontré quelques dirigeants de club. Si aujourd'hui tu penses qu'il y a un club qui aurait besoin de tes services, lequel ce serait pour toi?
Il faut que je mette une balle à quelqu'un dans le dos, parce que ça veut dire qu'il travaille mal.
Alors, un petit peu, si tu veux, c'était pour un petit peu te taquiner, te pousser un petit peu.
Ah, ok, bon, ça va. Je peux te répondre du coup.
Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question, Samuel, Antoine, Amaury, à poser à Benjamin?
Ouais, je me permets d'y aller, les gars. Si tu veux, Benjamin, moi j'ai découvert ton compte Twitter, enfin ta compo, il y a quelques semaines maintenant. Et si tu veux, j'ai été très fortement marqué par le degré de précision des analyses. C'est vraiment une question très très large, mais combien de temps tu consacres à ça par jour ou par semaine? Parce que j'imagine qu'il faut que tu visionnes un maximum de matchs. Tu parlais de voir les matchs deux fois même à certains moments. Enfin, comment tu travailles? Combien de temps, d'énergie tu consacres à ça?
Franchement, je peux pas te dire. Je regarde du foot toute la journée, tous les jours. Mais il y a des jours où j'en peux plus. Il y a des jours où je suis obligé de faire une pause et je me mets une série dans la gueule pendant 24 heures. Mais globalement, c'est compulsif, c'est maladif. Et j'essaye de rentabiliser ça. Mais ouais, après, maintenant, je regarde différemment. En fait, j'essaye de sortir de la consommation à outrance. Et c'est pour ça que je préfère, par exemple, regarder un match et le re-regarder et je prends des notes en live et je les confronte avec ma deuxième lecture, plutôt qu'en fait de regarder 8 matchs dans la journée, mais t'es un peu sur le téléphone, et ça m'intéresse plus, je le fais plus. Et mais par exemple, je triche beaucoup parce que je fais pas mal de scouting en ce moment, et du coup, ça m'arrive de regarder uniquement les actions d'un joueur qui m'intéresse et pas tout le match. Donc voilà, je sais pas combien je l'estime, mais c'est vrai que je dois regarder au moins 9h, 10h de foot par jour quand je suis dessus, quoi.
Ok, merci beaucoup.
T'as une question, toi, peut-être, à poser à Benjamin ?
Bah ouais, un peu sur ton parcours, Ben. Du coup, t'as été éducateur d'une équipe ou tu l'as été ou...
Non, pas du tout. Je suis vraiment un débile sur mon canapé à l'origine. D'accord. J'ai pas de CV, j'ai pas de formation. Après, j'ai toujours baigné dans le monde du sport, que ce soit le foot ou autre chose. J'ai toujours eu ce côté-là à suranalyser mes performances, celles de mes équipes. Mais non, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de qualification. C'est juste de la curiosité que j'ai essayé de rentabiliser. Et aussi, ça je le dis à ceux qui essayent d'enrichir leur culture, mais énormément de lecture. Et spécifiquement, si vous avez le temps et l'énergie, et si vous êtes anglophone, de passer sur le Twitter anglais. En fait, on se rend compte, il y a une différence de niveau, ils ont 10 ans d'avance sur le travail analytique, et on progresse tous les jours.
Et une dernière, après je laisse la parole volontiers à Antoine. Du coup, si tu regardes beaucoup de matchs et tu analyses beaucoup, sans trahir la pépite de ton futur club, si tu nous conseillais un joueur qu'on ne connaît pas forcément à un niveau inférieur, ce serait qui? Ou une division mineure?
Écoute, je vais... on va passer à une autre question. Je vais regarder ma base de données, parce qu'en fait, j'enregistre tout ce que je regarde et tout, et je vais te dire ça, celui qui remonte qui a la meilleure note.
Ça roule.
Allez, pour finir, Antoine, ta question à Benjamin.
Ouais, moi, Benjamin, la question, ça serait, on sait qu'on, de plus en plus, on parle en fait d'entraîneurs ou d'éducateurs qui essaient de s'inspirer d'autres sports. Toi, d'un point de vue personnel, quels sont les autres sports qui t'ont passionné durant ta jeunesse et encore aujourd'hui, et lesquels tu trouves les plus inspirants pour être innovant dans le football ?
Moi, j'ai fait pendant très longtemps du handball. Donc c'est le sport qui m'a marqué le plus et qui est intéressant dans notamment le jeu de position, en fait, quand tu dois déceler les intervalles. Là, ça ressemble assez au foot, mais je pense que le sport peut-être qui pourrait le plus s'en rapprocher, ça serait le basket, notamment pour le côté course, le côté repérer le bon espace, le côté gestion des sous-nombres, qui est très important dans le foot moderne. Notamment Lens, ils sont toujours en sous-nombre derrière, et ça tu dois l'apprendre tactiquement. Et le basket, tu passes ta vie à faire ça, en fait. Donc je pense qu'il y a des ponts à faire, ouais, avec pas mal de sports. Le badminton peut-être un peu moins, tu vois, mais les sports co en général, ouais, tu peux t'enrichir clairement. Et donc pour répondre à ta question, j'ai regardé du coup celui qui remonte bien, c'est Jiménez Alejandro, qui est un 2005 espagnol que j'ai vu du coup au tournoi de Montaigu cet été. Et en France, j'adore Johan Le Penant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu jouer, qui est en Ligue 2 à Caen, en 2002. Et voilà, profil un peu cacré, qui est assez joli à voir. Si vous avez l'occasion, c'est très soyeux, c'est très doux.
Ça se trouve, dans 24 heures, il signe chez nous. Oh, ça serait...
bah, exactement. Hein. Okay, il est en train de regarder l'émission, là, et c'est bon, il a coché les deux noms. En tout cas, c'est passionnant de t'entendre. C'est passionnant de t'entendre, Benjamin. Et si vous voulez poursuivre les analyses de Benjamin, je vous rappelle, hein, son compte Twitter, @fais_ta_compo, pour bien suivre les analyses tactiques de Benjamin Charrier. Pour finir l'émission, comme d'habitude, petite projection sur le prochain match du Racing, petit déplacement au Matmut Atlantique à Bordeaux le 12 septembre prochain. C'est pas un bon souvenir, l'année dernière, le déplacement à Bordeaux, une belle rouste, 3-0. Est-ce qu'on sera plus à la hauteur que la saison dernière, et faut-il des changements, que ce soit tactique ou compo, par rapport au match face à Lorient, à Maury?
Non, pas forcément de changement. On va retrouver Doucouré, non, on l'aura pas, je crois qu'il est suspendu demain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. Donc, clairement, se pose le rôle de l'animation du milieu de terrain et de la place de Cahuzac, pardon, par rapport à ce qu'on a vu dimanche. Mais de toute façon, savoir ce qu'on attend de Bordeaux, de Lens, c'est compliqué. Hein. Il peut tout se passer, gagner à Monaco comme perdre contre n'importe quelle équipe. Donc, c'est difficile. Moi, je veux pas forcément de changement de joueur. Je pense qu'il faut continuer à bosser, que tout le monde assimile les principes de jeu pour les nouveaux. Et j'attends surtout Machado sur son couloir gauche, là, qui nous fasse une grosse presta et qui nous montre tous les espoirs qu'on avait en lui étaient fondés et pas juste un feu de paille.
T'es d'accord toi aussi Antoine, on continue dans la stabilité, on progresse?
Ouais, mais moi pour cette séquence en fait, parce que souvent on répète un peu qu'on espère de la continuité, etc. Moi j'essaie plutôt de voir ce qui se passe du côté de l'adversaire. Hein. Bordeaux c'est quand même une équipe qui est en plein renouveau avec nouveaux propriétaires, il y a eu un énorme ménage de faits. Il y a Gérard Lopez qui est allé. Gérard Lopez, je pense qu'il a quand même des idées en tête avec l'ancien bras droit de Luis Campos. Donc ils ont fait un recrutement où, comme souvent avec Luis Campos, en fait on a très peu de visibilité sur les joueurs, on les connaît, le grand public les connaît très peu. Moi personnellement il y en a beaucoup que je connais absolument pas, donc grande surprise, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre en face. Pareil, on parlait de coach un peu disruptif en Ligue 1. Petkovic, ça a été un bâtisseur avec la Nati. Qu'est-ce qu'il va faire avec Bordeaux? Ça commence pas super super bien, mais encore une fois je pense qu'il faut pas tirer de conclusion. On a 15 jours aussi, il y a la trêve, les dynamiques peuvent être un peu altérées, il y a encore un mercato qui doit se finir demain, donc voilà, donc beaucoup d'incertitudes sur ce match, mais de notre côté je pense qu'on va être fidèle au principe, et puis bon, j'ose espérer qu'on fera au moins mieux que l'année dernière.
Sam, le match face à Bordeaux, on fera mieux que l'année dernière?
Ouais, j'aurais tendance à dire oui, mais je me souviens de ce match l'an dernier. Alors et en soi, on terminait la saison carbonisée, mais c'est vrai que c'était entre guillemets le match entre guillemets facile dans cette fin de saison assez dingue. Et puis cette défaite 3-0 qu'on n'avait pas forcément vu venir. Bon, là Antoine a raison quand il dit que là c'est très difficile d'avoir une lecture sur les Girondins de Bordeaux, d'autant qu'ils ont été aussi déjà surprenants au début de saison. Avec des nuls, enfin notamment à Marseille, enfin bref, donc très difficilement pronosticable. Après voilà, les deux premiers matchs du Racing à l'extérieur cette saison ont été très très sérieux, très cohérents, avec des bons résultats. Donc voilà, il y a pas de raison de changer de principe. Et puis on verra bien ce que ça donne en termes de résultats.
Bon, bah, il ne reste plus qu'à donner votre prono, les gars, pour ce match à Bordeaux, le 12 septembre prochain. Ton prono, Antoine, Bordeaux-Lens?
Match nul, un partout.
Amaury?
Ouais, 2-2 pour moi.
Match nul de partout aussi. Samuel?
Victoire 2-1.
Du Racing ou de Bordeaux?
Du Racing.
Bien de préciser. Et toi, Benjamin, comment tu vois ce match, ton prono pour le prochain match de Lens à Bordeaux?
Franchement, je pense que c'est la meilleure période pour les prendre, parce qu'ils ne sont pas encore familiers du système. Il y a des joueurs qui arrivent, donc les mecs qui jouent actuellement, ils savent qu'ils vont se faire sauter. Tu n'es pas dans les meilleures conditions mentales. Et puis, je pense à un duel qui peut être catastrophique pour le Bordelais, c'est Klaus contre Mensa, qui a d'énormes difficultés sans ballon dans son couloir gauche. Après, le problème, c'est qu'en fait, ils sont en 5-3-2 aussi, et du coup, quand on sait qu'on lance un système qui match, l'année dernière, ça s'est passé à Rennes, quand Stéphane a changé son système pour justement épouser celui lensois, t'es un peu plus en difficulté, donc franchement, je vais dire, les deux ils vont se neutraliser un 0-0.
0-0.
Faut pas regarder, restez chez vous. Là, il va y avoir un 6-3 pour Lens, bien sûr.
Ça donne envie. Bon, c'était un plaisir, en tout cas, de te recevoir ce soir, Benjamin. Merci.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Hein.
Merci Sam, merci Antoine, merci Amaury.
Merci Valentin.
De ce Culture Sans Ailleurs. J'étais ravi d'être avec vous sur cette première pour ma part. Pour suivre l'émission, vous le savez, hein, et lire nos articles et nos interviews, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, @culturesansailleurs, Culture Sans Ailleurs sur Facebook évidemment, et puis le site internet culturesansailleurs.com. On se retrouve bientôt dans Culture Sans Ailleurs. Merci d'avoir été avec nous et on espère une victoire pour la prochaine du Racing. Bonne soirée à tous, merci.